Bonjour à tous et toutes, et également à ceux qui nous suivent par Internet. Je vous propose ce matin un parcours à travers de la littérature apocalyptique, et nous allons commencer par une lecture dans le livre de Zacharie, au chapitre 1, les versets 8 à 11. Voici ce que je vis pendant la nuit. Un homme monté sur un cheval roux se tenait parmi les myrtes dans le gouffre. Il y avait derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. Je dis, « Qui sont-ils, mon Seigneur ?» Le messager qui parlait avec moi me dit, « Moi, je vais te faire voir qui ils sont. » L'homme qui se tenait parmi les myrtes dit, « Ce sont ceux que le Seigneur a envoyés parcourir la terre. » Ils dirent aux messagers du Seigneur qui se tenaient parmi les myrtes, « Nous avons parcouru la terre, toute la terre est en repos et tranquille. » Et dans Zacharie 6, les versets 1 à 8. Je levai de nouveau les yeux et je vis quatre chars qui sortaient d'entre les deux montagnes. Ces montagnes étaient des montagnes de bronze. Au premier char, il y avait des chevaux roux, au deuxième char, des chevaux noirs, au troisième char, des chevaux blancs, et au quatrième char, des chevaux tachetés, vigoureux. Je demandai au messager qui parlait avec moi, « Ceux-là, que sont-ils, mon Seigneur ?» Le messager me répondit, ce sont les quatre vents du ciel qui sortent du lieu où ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre. Les chevaux noirs, attelés à l'un des chars, sortent vers le pays du nord, et les blancs sortent derrière eux. Les tachetés sortent vers les pays du sud. Vigoureux, ils sortent et demandent à aller parcourir la terre. Il leur dit, « Allez, parcourez la terre. » Et les chars parcoururent la terre. Il m'appela et me dit, « Regarde, ceux qui sortent vers le pays du nord font reposer mon souffle dans le pays du nord. » Et dans le Nouveau Testament, nous lisons dans l'Apocalypse, au chapitre 6, les versets 1 à 8. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept seaux. Et j'entendis l'un des quatre êtres vivants dire d'une voix de tonnerre, « Viens !» Alors je vis un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Quand il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant dire, « Viens !» Et un autre cheval, rouge feu, sortit. À celui qui le montait, il fut donné d'ôter la paix de la terre pour que les gens s'entr'égorgent, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire « Viens !» Alors je vis un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main, et j'entendis comme une voix au milieu des quatre êtres vivants. Elle disait, « Une mesure de blé pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier. Quant à l'huile et au vin, ne leur fais pas de mal. » Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant dire, « Viens !» Alors je vis un cheval verdâtre. Celui qui le montait avait pour nom la mort et l'Hadès l'accompagnait. Pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour tuer par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Seigneur, que ton esprit aide à faire de mes mots des mots de bonne nouvelle pour celles et ceux qui les entendent. Amen. Le premier texte de Zacharie que nous avons entendu se termine sur le récit des chevaux qui ont parcouru la terre. Ceux-ci, et dans la Bible comme dans les dessins animés, parfois les animaux parlent. Les chevaux, donc, rapportent la chose suivante au messager du Seigneur. Nous avons parcouru la terre, toute la terre est en repos et tranquille. Ces mots tout simples, toute la terre est en repos et tranquille, suscitent en moi, et peut-être aussi en vous, un désir doux, presque douloureux. Quelle puissance dans cette terre en repos et tranquille. Quelle paix également évoquée par ces mots. Comme j'aurais envie aujourd'hui, dans notre monde agité et animé de conflits, d'entendre ce rapport à l'issue d'une nuit parcourue à parcourir la terre. Toute la terre est en repos et tranquille. Et au milieu de cette terre, moi aussi, je suis en repos et tranquille. Pourtant, mon agenda et les bulletins d'information me rappellent sans cesse que ni le monde, ni moi-même, ne sommes au repos. Quel contraste également entre l'affirmation de Zacharie au chapitre 1 et celle qu'on trouve au chapitre 6 du même livre, où les quatre chars tirés par les chevaux représentent les quatre vents du ciel. On les imagine prêts à se déchaîner sur la terre, ces chars tirés par des chevaux vigoureux. Et peut-être que c'est justement ces images de Zacharie que l'Apocalypse veut rappeler dans le passage que vous venez d'entendre et qui évoque l'apparition de quatre chevaux montés de quatre cavaliers. Quel contraste entre le calme du premier passage de Zacharie et la violence à peine contenue du passage de l'Apocalypse. Les quatre cavaliers de l'Apocalypse sont bien connus de la culture populaire. En ce moment, ils réapparaissent dans des jeux vidéo, sur Facebook même, avec des fils de conversation entre les quatre, mais également aussi dans des mimes autour de la pandémie, de la guerre contre l'Ukraine. Et vous avez peut-être même vu au début du premier confinement les quatre cavaliers illustrant la pénurie de papier de toilette. Avant ces reprises humoristiques, les cavaliers ont généralement été nommés conquête, guerre, famine et mort. Dans le contexte historique de l'Apocalypse, ils représentaient probablement des entités particulières, comme les menaces représentées par les Parthes pour le premier cavalier, la mise en danger de la paix romaine pour le deuxième, l'augmentation du prix des céréales liée à des insécurités au sein de l'Empire pour le troisième et la mort pour le dernier. Luther va également les interpréter négativement en donnant des traits orientaux au premier cavalier qui l'identifie avec, comme il le dit, la menace turque. Les cavaliers sont également repris dans une chanson de Metallica où ils sont identifiés comme temps, faim, pestilence et mort. Il semble donc bien que les quatre cavaliers du chapitre 6 de l'Apocalypse peuvent fonctionner comme des contenants vides qui peuvent intégrer les significations que chacune, chacun trouve important de leur donner. Des signifiants en attente de signifier. Reste que dans l'Apocalypse, les contenus associés à chaque cavalier sont négatifs et violents. Le premier cavalier, monté sur son cheval blanc, part pour la victoire. Il évoque peut-être celui qui monte un autre cheval blanc en Apocalypse 19. Le cavalier d'Apocalypse 19 se nomme fidèle et vrai. Il fait la guerre avec justice. Et souvent, on pense qu'il représente le Christ, qui, à la fin des temps, va vaincre les puissances du mal. Mais au chapitre 6, Le rôle du premier cavalier est plus ambigu. Il fonctionne comme un symbole de victoire. Peut-être qu'il rappelle aussi les nombreuses représentations sous forme de statuettes de déesses ailées de la victoire qu'on trouve un peu partout dans le pourtour méditerranéen à cette époque. Et si vous êtes passé au Louvre et que vous avez vu la victoire de Samothrace, c'est l'exemple géant de ces petites statues qu'on trouve un petit peu partout. Le deuxième cavalier, sur son cheval rouge-feu, détruit la paix et fait en sorte que les humains s'entre-égorgent. On peut voir sous les traits de ce deuxième cavalier toutes les figures, historiques ou non d'ailleurs, qui ont mené à la guerre et à la dévastation. Les créations post-apocalyptiques contemporaines en sont friandes. On peut par exemple penser à Voldemort dans la série Harry Potter, ou à la figure de Thanos dans les films des Avengers. Mais on peut évidemment, chacun, chacune, y identifier également une figure historique. Le troisième cavalier, sur son cheval noir, évoque l'inflation et la famine qui va résulter de la famine qui va résulter de l'inflation, puisque les produits de première nécessité, tels que le blé et l'orge, voient leur prix augmenter. Quant à l'huile ou le vin, qu'on pourrait identifier avec des produits plus luxueux, ils sont épargnés dans cette hausse des prix. Autant dire que dans la crise que l'Apocalypse décrit, ce sont celles et ceux qui ont le moins qui souffriront le plus. Et ici, on peut se dire que plus ça change, plus c'est la même chose. Finalement, le quatrième cavalier, sur son cheval blême, en grec le mot est chloros, nous a donné chlorophylle évidemment, et chloros, ça évoque une couleur un peu indéfinissable, une espèce de vert assez pâle. Donc ce cheval verdâtre est identifié explicitement avec la mort. La mort vient suivie de l'Hadès, qui représente en même temps la divinité du royaume des morts et le royaume des morts lui-même. Ces quatre cavaliers sont autorisés, probablement par Dieu lui-même, à anéantir le quart de la terre. Leur pouvoir, quoique terrifiant et dévastateur, est limité par la puissance de Dieu elle-même. Cela fait également partie d'un motif concentrique dans l'Apocalypse, pour laquelle les catastrophes s'étendent toujours plus largement au fur et à mesure du récit, mais ne touche jamais l'humanité entière. Il y a toujours une partie de la population mise de côté et préservée pour participer au culte. Le culte joue d'ailleurs un rôle fondamental dans le récit et ponctue de nombreux épisodes, comme une respiration au sein des catastrophes qui s'enchaînent dans le livre. Il est évidemment tentant aujourd'hui d'associer les cavaliers aux différents maux qui nous assaillent, nous, personnellement, ou le monde. Le contexte actuel semble faire écho au langage apocalyptique, à son obsession avec une fin du monde toujours à venir, mais de plus en plus proche. On entend cette inquiétude dans les discussions autour de la crise climatique, mais on trouve également des nuances apocalyptiques dans les analyses des opérations de guerre que mène la Russie contre l'Ukraine. Notre avenir semble fragile et menacé par des forces qui sont difficiles à contrôler et à changer. La réponse donnée par l'Apocalypse à ces situations est à première vue assez simple. Peu importe les violences et les horreurs qui prennent place dans le monde, l'agneau se montrera plus fort qu'elle et triomphera. C'est justement le rôle du cavalier d'Apocalypse 19 dont j'ai déjà parlé. Ce cavalier est identifié au chapitre 19 avec la parole de Dieu et l'Apocalypse explique qu'il viendra entouré des armées du ciel. Avec son épée, il frappera les nations, il les fera paître avec un sceptre de fer, il exprimera la colère ardente de Dieu. On donne encore une fois son nom. Il est roi des rois, seigneur des seigneurs. Il détruit la bête, les rois de la terre et leurs armées. La défaite est si complète pour les forces du mal que le passage se termine en indiquant que tous les oiseaux se rassasient des chairs des victimes du cavalier d'Apocalypse 19. Dans le contexte donc d'un conflit entre deux puissances, la puissance du bien et la puissance du mal, l'Apocalypse, à première vue, offre la solution suivante. À puissance, puissance et demi. Le Christ et son Dieu triomphent de tous les autres pouvoirs. Ils sont infiniment plus puissants que les forces qui s'opposent à eux et ils s'inscrivent en fait parfaitement dans une logique de pouvoir violent et guerrier. Face à cette réponse proposée par l'Apocalypse, on peut se demander, que faire si un sauveur tel que celui proposé par l'Apocalypse ne semble pas exister? Ou peut-être, de manière plus importante, que faire si la perspective d'un sauveur violent et guerrier ne nous semble pas suffisante ou pas souhaitable? Que faire si le modèle du Christ tout-puissant qui prend la place de l'empereur dans la hiérarchie du monde, ne nous satisfait pas? Sommes-nous condamnés à aller chercher ailleurs que dans les récits de l'Apocalypse? Le langage contenu dans ce livre, avec toute sa poésie fantastique, est-il en mesure d'offrir des pistes de réflexion quant à nos inquiétudes de fin du monde? Au-delà de la présentation d'un Christ souverain et d'un Dieu tout-puissant, les deux contiennent leur part de violence, l'Apocalypse ouvre des espaces, il me semble, pour penser non pas la fin du monde, mais la fin d'un monde, ou les fins d'un monde. Deux pistes me semblent fructueuses. L'une s'incarne dans l'agneau immolé du chapitre 5, qui est le seul trouvé digne d'ouvrir le livre scellé. L'autre se joue dans la manière dont l'Apocalypse propose une réflexion sur le temps et l'espace. Et je vous propose de suivre l'une et l'autre. L'agneau immolé qu'on trouve pour la première fois dans Apocalypse 5 va jouer un rôle important dans la suite du livre. C'est une créature tout à fait particulière. Il est décrit de la manière suivante, en Apocalypse 5, au verset 6. Un agneau debout qui semblait immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Dans cette description, a priori un petit peu mystérieuse, d'un agneau couvert de cornes et Dieu debout et immolé, il y a des indicateurs de pouvoir. Les cornes, dans l'Antiquité, plus une divinité a de cornes, plus elle est puissante. Sept cornes, sept, c'est le chiffre parfait, donc sept cornes, il est parfaitement puissant. Et il est debout. On a donc des indicateurs de pouvoir, on a des indicateurs de maîtrise de la création. Il a sept yeux, comme sept esprits de Dieu, qui voient tout dans la création. Mais il y a aussi des signaux de faiblesse. En tant qu'agneau, il est l'offrande par excellence dans les sacrifices, ce qui est évidemment souligné par le fait qu'il est présenté comme immolé. On entend d'ailleurs l'écho d'un autre prophète, d'Ésaïe. Brutalisé, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau traîné à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui la tondent, elle est muette, lui n'ouvre pas la bouche. Donc celui qui va vaincre les puissances du mal, c'est l'agneau du sacrifice, celui qui ne répond pas à la violence par la violence, mais la subit. La figure du Christ est donc ambiguë dans l'Apocalypse. Elle n'est pas la victime qui accepte de souffrir pour sauver le monde. Elle n'invite pas au dolorisme. Mais elle n'est pas non plus celui qui triomphe sans conscience de la faiblesse, en voulant éviter à tout prix l'abaissement. Les deux dimensions, la puissance et l'abaissement, sont présentes dans le Christ de l'Apocalypse. Elles sont, à vrai dire, difficiles à concilier, et le livre lui-même semble parfois lutter pour garder les deux dimensions ensemble. On le voit dans la description de l'agneau debout immolé. Mais il reste que l'effort est là. Celui qui triomphe, c'est aussi l'agneau vaincu, qui propose une autre forme de souveraineté et d'incarnation du pouvoir. Si, face à la réalité de la violence que l'on trouve dans le monde, la figure de l'agneau immolé offre une réponse qui dépend de la christologie, l'Apocalypse va encore proposer une autre réponse, il me semble, et cette autre réponse est proprement apocalyptique, dans le sens où elle joue sur la dimension révélatrice du livre. Vous savez sûrement en effet que le mot « apocalypse » vient d'un verbe qui en grec veut dire « dévoiler », « révéler ». L'Apocalypse révèle, dévoile. Souvent, on le comprend comme la révélation de choses secrètes ou d'événements futurs. Mais la révélation se joue également, et à vrai dire peut-être plus, dans une perspective sur la réalité, sur ce que nous voyons dans le monde et ce que nous comprenons du monde. L'Apocalypse, dans son sens premier de révélation, de dévoilement, nous invite à regarder la réalité autrement, à aller au-delà de l'organisation apparente de l'univers, pour en saisir le sens profond. Dans cette compréhension du temps et de l'espace proposée par l'Apocalypse, on trouve un rappel que le temps et l'espace délimités par le culte, ce qu'on pourrait appeler donc le temps et l'espace de l'Église, ne sont pas un temps et un espace hors de la réalité. Pour le dire autrement, le temps et l'espace de l'Église ne sont pas une façon de sortir de la réalité, d'échapper à notre réalité pour un moment. Au contraire, la révélation de l'Apocalypse, c'est de montrer que le temps et l'espace du culte, le temps et l'espace de l'Église sont réalités au sens le plus profond. Ce sont justement des réalités plus réelles, plus importantes que les réalités auxquelles nous donnons de l'importance dans notre vie de tous les jours. Dans cette dimension de temps et d'espace plus réel, plus important, le culte, l'Église, sont peut-être le lieu qui nous révèle comment la Terre, dans toutes ses imperfections, ses fêlures et ses luttes, peut être en repos et tranquille. Amen.